Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
J'ai souvent changé de point cardinal, d'orientation. J'ai perdu la boussole souvent. Je me suis égaré dans toutes les directions possibles et imaginables. Ce qui me fait faire des voyages assez amusants. Il faut être très jeune pour pouvoir faire ça. Tenir le coup, ne pas être désillusionné tout de suite, ni trop fatigué. Enfin, il y a eu des hauts et des bas, des coups durs, des coups moins durs. La Terre est une chose magnifique.
Bonjour à tous. Consacré père de la bourlingue, l'écrivain vagabond suisse Blaise Cendrars a toujours placé sa vie et son œuvre sous le signe du départ et du mouvement. Bourlinguer, c'est le mot qui, en juin 2021, a occupé le festival littéraire aux quatre coins du mot, situé à la Charité-sur-Loire, en Bourgogne, dans le centre de la France. Avec, aux quatre coins de ce mot, des rencontres, des spectacles, des lectures, mais aussi des écoutes sonores, auxquelles Sylvain Siproche a été convié cette année-là autour de nos séries radiophoniques sur les femmes voyageuses. Et parmi les invités de ce festival, on en trouve une de grande voyageuse. Une motarde française, journaliste et écrivaine, auteure de nombreux récits de voyage et première femme à avoir fait le tour du monde en solo, à moto, dans les années 70. À si loin, si proche, on est donc très heureux de rencontrer Anne-France Daudeville à l'aune de ses 77 printemps, surtout que ça fait longtemps que l'on suit sa route pendant qu'elle, elle la trace. Anne-France Daudeville, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans les innombrables articles qui vous sont consacrés, où l'on vous présente tour à tour bikeuse, easy rideuse, j'ai lu aussi demoiselle à moto, puis vieille qui conduisait des motos, mais ça reprend en fait les titres de certains de vos livres. Bref, dans ces articles, j'ai lu à votre sujet que vous avez toujours préféré le terme bourlingueuse à baroudeuse. Est-ce que c'est ça justement bourlinguer, ce qu'on vient d'entendre, ce que chantait Dany dans La fille à la moto, mettre les gaz plein pot comme une liberté individuelle arrachée à la route?
Pas plein pot.
Pas plein pot.
Ah non, non.
Vous, c'était pas plein pot?
Non, surtout pas. Je conduis comme un panier. Moi, je m'assieds sur la moto, elle roule, tant qu'elle tombe pas, je suis contente. Quand on fait de la très longue route, comme ce que j'ai toujours adoré faire, si on va vite, on a la pression du vent sur les épaules, sur la tête, et on se fatigue très très vite. Donc, si on veut aller vite, il faut faire du circuit.
Donc, vous rouliez doucement?
Oh, oui. Oui, non, mais c'est pas un sport extrême, vous voyez. Et en plus, moi, j'ai fait de la moto parce que j'étais beaucoup trop bête pour avoir le permis voiture. Donc, voilà, je faisais avec ce que j'avais.
Mais en tout cas, ça voulait dire larguer les amarres.
Ah oui. Ah oui, changer de vie, totalement.
Et vivre sans attache aussi.
Si, au contraire. Quand j'ai voyagé, j'ai vu beaucoup de parteurs qui savaient partir, mais ce n'étaient pas des reveneurs, forcément. Et les attaches me sont nécessaires, c'est-à-dire que j'ai besoin de m'en aller, effectivement, mais j'ai absolument besoin de retrouver ma vie de vieille fille, avec mes chats, avec mes papiers, avec mes routines, avec mes amis, avec mes repères d'ici. J'ai besoin de revenir aussi, ne serait-ce que pour digérer ce que j'ai accumulé et pas compris en route.
Alors ce mot bourlinguer est au départ un terme de marin qui signifie avancer difficilement, péniblement contre la mer et le vent. Et le vent, justement, c'est une donnée importante du voyage à moto. Et à ce sujet, le comédien et écrivain français Georges Perros, qui était un éternel vagabond à moto, a écrit un jour dans une de ses lettres des mots que je trouve très beaux et que je voulais partager avec vous. Il disait « Je fais de la moto pour fuir le temps, le changer en vent ». Est-ce que ça vous parle, cette phrase ?
Je sais pas. C'est joli, ça, de toute façon, oui. C'est très, très joli. C'est très intelligent. Moi, je fuyais pas. Moi, j'allais voir et j'allais me régaler. Je ne sais pas si une fuite est constructive. Peut-être qu'à l'arrivée, oui. Mais je quittais des lieux que j'aimais, des amis que j'aimais, mes chats que j'adore, ma vie, etc., etc., pour aller faire moisson d'images, de sensations, de rencontres, de bonheur, etc. Et puis, une fois que c'était fait, bah, je ramenais ça à la maison. Et quand j'écrivais mon livre, je le revivais et je donnais forme à ce qui était. Et en fait, je ne comprenais pas forcément. Il fallait que je me pose pour comprendre. Et même, quand j'ai fait mon voyage d'Australie en 1975, quand je suis rentrée, j'ai essayé d'écrire le voyage. Et en réalité, le pays est tellement fou, tellement magique, que c'était trop court. Donc, j'ai écrit mon premier roman à la place. Et j'ai écrit le voyage d'Australie 45 ans après. Et il est sorti cette année. Eh bien, il y a 45 ans, j'aurais jamais écrit ça. Ça veut dire que tout ce que j'ai encore de vivant, je suis encore en Australie, je suis encore dans l'eau chaude de Metaranka, je suis encore, etc., etc. Mais j'ai eu le temps de voir quel est le sens de ces voyages, vous voyez ?
Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre histoire personnelle ? Parce que quand même, il faut le dire, rien en gros ne vous prédestinait à partir comme ça dans le vaste monde à moto, dans votre histoire familiale.
Oh non !
Vous venez de quel milieu ? Un milieu plutôt bourgeois,
protestant, comme il faut, bien élevé. Les parents joyeux quand même. Mais tu te marieras en blanc, ma fille, tu feras des enfants, tu offriras ta souffrance à Dieu, tu ne diras pas des gros mots, etc., etc. Enfin bon, c'était une éducation du 19e siècle, en toute bonne foi. Et puis, bah, ça n'a pas marché.
Et comment vous êtes mis à la moto ?
La CGT.
C'est-à-dire ?
Les cocos. Ils ont fait des grèves en mai 68. Moi, je travaillais à cette époque-là dans la publicité à Paris. Il fallait que j'aille à pied. Et j'habitais dans le 5e arrondissement. Je travaillais à la régie publicitaire d'une autre radio qui était rue du Boulois, à côté des Halles. Donc, marcher pour aller, pour revenir, etc. Quand la révolution a été terminée, je me suis dit que non. Il fallait rationaliser. Donc, je suis allée m'acheter une moto, puisque j'avais aucun permis, mais comme j'avais pas non plus le permis moto, c'était un 50 cm cube qu'on appelait à cette époque-là une tasse à café et une mouche à merde quand on était mal élevé, et c'était un 50 Honda qui ressemblait à une moto. Voilà.
Et donc vous voilà, Anne-France d'Hauteville, partie suivre le vent. C'est d'ailleurs le titre de votre second ouvrage, Et j'ai suivi le vent, récit de votre tour du monde de l'Amérique à la Turquie en passant par le Japon, l'Inde ou l'Iran. Mais avant cela, il y a eu le premier grand voyage. Retour à l'été 1972, à Paris, sur la plus belle avenue dite de France, voire du monde, dans un sacré brouhaha qui va certainement, Anne-France, vous rappeler des souvenirs, une archivina interactive.
Ces sirènes, ces klaxons, ces pétarades animaient ce matin entre 8h et 9h l'avenue des Champs-Élysées. Une centaine de motards s'étaient donné rendez-vous devant la maison de l'Iran pour participer au départ du raid Orion qui conduira en 13 jours les concurrents jusqu'à Ispahan, soit 5830 km. Christiane Belfort, matinale aujourd'hui, a posé quelques questions à des concurrents quelques instants avant le départ.
Je pars pour 5 semaines. J'espère découvrir des gens d'une autre vie, un autre mode de vie, une nouvelle société.
Quel âge avez-vous, monsieur ?
Moi, 48 ans, 25 ans de moto.
Vous faites ce rallye pendant vos vacances ?
Oui, oui, mes vacances de 4 semaines avec une semaine supplémentaire à ma charge.
Casquet, beauté, ils sont là au rendez-vous ce matin, Patrice Boissy. Vous êtes le président de la guilde européenne du RAID et ils sont venus nombreux, une centaine à peu près.
Ils sont très exactement 98 à l'heure du départ. Il y a beaucoup de couples, ce qui peut vous montrer que le RAID n'est pas l'apanage des hommes.
Alors ce RAID a lieu pour la première fois.
Oui, c'est une grande première en matière de raid moto international. Je crois que jusqu'ici, il n'y a pas eu de raid de cette importance.
Anne-France Daudeville, ce raid Orion est l'ancêtre des grands rallyes raid moto et voitures qui vont marquer après les années 80 et au-delà. Comment est-ce que vous avez vécu ce grand voyage vers l'Orient ?
Ben, je n'en pouvais plus de ma vie. Je trouvais que j'étouffais dans la publicité, je n'avais plus de bonheur à vivre, donc il fallait que ça change. Il y a eu cette occasion de partir. Moto Guzzi, l'importateur de Moto Guzzi m'a prêté la moto de son frère, qui était une espèce... Alors, pas le frère, mais la moto, c'était un piano à queue. C'était épouvantable, il fait 240 kilos vide. Un tracteur. Quand elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber. Quand elle était par terre, je ne pouvais pas la relever. Mais c'était une moto super solide, super performante, extraordinaire. Et donc, j'étais perchée sur cette moto énorme. J'étais dans cette foule de gens qui roulaient, des pros quasiment, hein, des vrais motards. Moi, j'étais une fille à moto. Et il fallait que ça change, donc c'était ça ou rien. Donc je partais. Mais comme tout le monde avait parié que j'allais tomber à 500 km, en plus j'étais morte de peur. Ils ont perdu, je suis tombée à 750 km.
Mais vous êtes remontée sur votre moto, vous avez continué la route jusqu'au bout et même au-delà.
Oui, alors on était parti à 105, on est arrivé à 92 à Ispahan. C'est vrai que j'ai ouvert en deux une borne du Mont-Cenis. Je suis rentrée dedans, plein pot, dans un virage. La moto était pliée, on l'a mise dans le camion balai. Je me suis retrouvée dans la voiture des docteurs et à Belgrade, on a réparé, changé la fourche. Je suis remontée sur la moto et je suis allée jusqu'à Ispahan. Là, il y en a 11 qui ont dit ben, « on va en Afghanistan », donc j'y suis allée. 5 qui ont dit « on va au Pakistan », j'y suis allée. On n'a pas pu aller en Inde parce qu'il aurait fallu des carnets de passage en douane, des papiers compliqués, etc. Et du coup, on est reparti vers l'ouest. Et puis le dernier est resté coincé à Istanbul parce qu'il attendait qu'on lui envoie de l'argent. Et je suis rentrée toute seule d'Istanbul à Paris. Sur cette moto qui n'était pas la mienne, que j'ai rapportée chez le concessionnaire et que j'ai rendue alors qu'il était prêt à me l'offrir parce que franchement, elle était trop lourde.
Mais souvent quand même, le propre de ces rallyes, c'est souvent dans l'idée d'atteindre quand même la destination. Alors on voit du paysage, j'imagine, en route, mais on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour rencontrer les gens. Est-ce que c'est pour ça que justement vous avez prolongé le voyage, histoire d'un moment vraiment rencontrer les gens?
Non, parce que on était très peu nombreux, mais on était un groupe. Et le groupe, il tourne sur lui-même. Et c'est uniquement à la périphérie qu'on peut éventuellement frôler les autres. Et j'avais bien le sentiment que toutes les horreurs qu'on m'avait racontées sur « c'est tous des sauvages, ils ne pensent qu'à te violer, machin, etc. etc. », c'était pas vrai.
C'était vraiment ça, ce qu'on vous disait ?
Ah oui, oui, absolument, oui. Il y a un mec qui est allé me voir la veille du départ, qui participait au raid et qui m'a dit « faut pas y aller, hein, faut pas y aller. Pourquoi ? Ce qu'il faut aux femmes, j'ose même pas vous le dire. » Vous savez, on était encore dans un très sérieux racisme à cette époque-là. Et donc, je voyais bien que c'était pas ça. Mais en même temps, les autres étaient ce rideau entre moi. Et c'est pour ça que j'ai compris deux choses pendant ce voyage. C'est que, un, il faut pouvoir relever sa moto toute seule quand elle tombe, parce qu'autrement, on risque de rester coincé au milieu de nulle part. Bon, si on est pris par la nuit, il fait très froid, c'est pas une bonne solution. Et l'autre chose, c'est qu'il faut voyager seul, parce que là, on dépend de tout le monde. Et on ne peut se raccrocher à rien de ce qu'on connaît. Et c'est ça, un vrai voyage. C'est à la fois d'être soi-même, mais d'être avec les autres. C'est ça qui m'a fascinée quand j'ai voyagé. c'est tout le temps.
Et justement, c'est ce que vous avez décidé à votre retour justement de ce raid Orion, c'est de vous lancer un peu un défi, même très clairement, celui de faire à moto et en solitaire le tour du monde. Extrait de « Et j'ai suivi le vent », votre second livre, donc paru en 1975 aux éditions Payot, un récit vivifiant de ce tour du monde dans lequel vous nous rappelez au passage que la femme n'est pas un motard comme les autres.
Le concept de la femme à moto. En fait, il existe deux concepts de la femme à moto. Petit a, en ville, la femme à moto est un monstre sexuel. Sans doute parce que les circuits d'information érotique, cinéma, journaux, psychanalystes sont omniprésents, pas chers et permanents.
J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer.
Depuis 10 ans qu'on le leur répète, les citadins sont maintenant persuadés que la motarde est l'aboutissement de la civilisation du plaisir. Alors, quand un aboutissement passe dans le secteur... Petit B, à la campagne où les joies sont plus saines, les cinémas plus rares et les curés plus autoritaires, la femme est encore faite pour se marier, porter des jupes et fabriquer des enfants. Quand elle se promène sur une moto, ce n'est plus une femme, c'est autre chose. Quoi ? On ne sait pas au juste, un être à moteur, une erreur de la nature. La femme à moto, après cette première analyse, semble être une entité solide, définie et définitive. Pourtant, il faut nuancer le problème. La moto en fait un monstre, c'est un fait. Mais elle est quand même un monstre femelle, donc tributaire du statut de la femme dans les régions qu'elle traverse. À ce compte-là, la moto n'est plus qu'un objet d'étonnement. Et l'étonnement passé, c'est plus ou moins long, on en arrive à la notion de femme qui voyage seule. C'est là le cœur du problème. Alors on oublie la moto, bien que ce soit une excellente machine.
Anne-France Dauteville, dans les années 70, quand vous décidez de partir comme ça pour ce tour à moto seul, en commençant par le continent américain, j'imagine que vous avez conscience forcément de ces fantasmes que charrie la figure de la jolie jeune femme qui part à l'aventure en chevauchant sa moto.
J'étais pas jolie.
Alors je dis jolie parce qu'on vous l'a adressé. C'est étonnant d'ailleurs, dans pas mal d'archives, on vous présente comme la jolie femme.
Non, je ne pouvais être que laide. L'éducation protestante fait qu'on ne peut être que laide, voyons.
C'était le regard que vous portiez sur vous à cette époque, en tout cas.
C'était une façon d'être qui était inscrite dans ce groupe-là, quoi. Donc on n'est pas accroché à son apparence. Bien que j'ai toujours aimé les petites robes, les talons pointus et que je me maquillais un peu les yeux quand même, hein. Faut pas...
Mais en même temps, une femme à moto, justement, ce que vous écrivez dans ce livre, ça, la moto, c'est un symbole viriliste et qu'une femme s'en empare.
Ah oui, mais quand je faisais encore de la publicité à Paris, j'ai loué un appartement qui était près de l'Étoile. Et un soir, je sortais d'une fête. J'étais sur ma moto, j'arrive à un feu rouge. Il était 2 heures du matin et une voiture me fait une queue de poisson. Donc je remonte la voiture, je ne lui fais pas une queue de poisson, mais on se retrouve à un feu rouge. Je me mets à côté de la vitre du conducteur qui baisse la vitre. Pour m'insulter, j'allais l'insulter, il me regarde, il voit que je suis une femme, il se retourne vers les copains en disant « Oh les mecs, un travelot !» Ben voilà, c'était ça, ça ne pouvait pas être une femme. Attaquée à coups de parapluie par une vieille dame à un feu rouge, c'est honteux ce que vous faites, mademoiselle. Et à cette époque-là, d'ailleurs, Roger Frey, le ministre de l'Intérieur, avait dit « Tous les motards sont des voyous ou des fils de famille ». Eh bien, à cette époque-là, bien souvent, les chauffeurs de taxi, bien souvent, les camionneurs essayaient de nous virer de la route.
Homme ou femme, c'était motard.
Motard. Et il a fallu que... viennent une autre génération où ce sont des jeunes qui ont conduit des motos pour que la route ne soit plus un endroit où on est en danger à cause de ça. Mais le danger était réel. Moi, je me souviens un jour sur la 4 voies qui part du pont de Saint-Cloud d'avoir été poursuivie par un espèce de fou furieux en 2 chevaux. J'étais sur une 125 qui n'avançait pas. C'était une bataille d'escargots combatifs sur la pente. Et j'avais vraiment peur. Le type essayait de me virer en plein jour.
Et est-ce que ça vous est arrivé en voyage ?
Non, pas du tout.
Et pourquoi alors? Pourquoi ça arriverait en France et pas au Japon, au Pakistan, en Inde ou en Alaska?
Parce que on n'avait pas la même information, parce que peut-être que il n'y avait pas. On est un peuple avec une part d'agressivité aussi. Peut-être parce qu'il n'y avait pas cette contre-culture qui mettait. Parce qu'il n'y avait pas Roger Frey qui avait dit que c'était tous des voyous et des fils de famille, quoi.
Et puis il y avait ce mythe, effectivement, en tout cas sur le continent américain, mais qui a inondé après le monde entier, en tout cas occidental, de cette figure un peu contestatrice et puis voyageuse, ce hobo qui chevauche sa moto et traverse, pourquoi pas, les continents.
Je pense qu'aux États-Unis, il y a quand même eu une espèce de peur aussi à cause des Hells Angels. Tous les gars sur les Harley Davidson avec des blousons cloutés avec, et qui étaient en groupe, qui étaient en meute.
En bande.
Même. Oui, c'est ça. Mais, oui, mais chaque pays a son histoire. Je veux dire, chaque pays a sa bête à abattre. Bon, ben, ça change, quoi.
Mais c'était pas la femme, en tout cas, parce que quand même, on peut...
Elle n'existait pas, en fait. Elle n'était pas envisageable. Il y en avait très peu. Il n'y en avait pratiquement pas.
Donc, vous étiez une pionnière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on redécouvre, en tout cas, les jeunes générations, votre trajectoire. Et vous êtes présentée comme un modèle, une pionnière, en tout cas.
C'est drôle, parce que franchement, moi, je roulais pour moi.
Mais c'est ça, vous n'aviez pas l'impression, à l'époque, d'être une pionnière?
Mais pas du tout. Moi, j'étais quelqu'un qui, au fond, essayait de se réinventer une vie dans le bonheur. C'est-à-dire que la vie, jusque-là, elle était organisée autour d'une carrière. Il faut réussir, il faut avancer. J'étais dans les clous. J'étais pas assez heureuse. Je me disais que si... En réalité, je prenais mes vacances au mois de septembre. Je montais sur ma moto et puis j'allais me balader en France. Et c'était magnifique. J'adorais ça. Puis je revenais à l'agence. C'était intéressant, oui. Puis je gagnais du fric, oui. Je louais un joli appartement, oui. Mais j'étais pas aussi heureuse que le 11e mois. Donc, quand je meurs, qu'est-ce qui se passe? J'ai un 11e de ma vie qui est merveilleux. Et puis, tout le reste, c'est acceptable. Ben non, sur les milliards d'années, j'ai qu'une vie, donc je veux être heureuse tout le temps.
Anne-France Daudeville, on va continuer de suivre votre route à moto, mais tout de suite sur RFI, place à la grande prêtresse du blues folk américain Valérie June, qui nous chante « Two Roads », parce que c'est bien connu dans la vie, il n'y en a pas qu'une seule de route.
Some are gone with you, some you can't put down. Some that you're leaving, some never to be found. Might get a funny feeling, something's been overlooked. But every journey forward, two roads, but one. A new day has come. Set face towards the sunset. Sweat beads from work been done. Might get a strange feeling. Something's been overlooked. But every turn forward. To run.
C'est proche, tous les voyages sont sur RFI.
Voilà, alors maintenant on va prendre le premier appel à 525 42 42. Oui, c'est à vous.
Allô?
Oui, bonjour madame.
Bonjour madame, je voulais vous demander une question pour la moto.
Mais oui, nous sommes là pour ça.
J'ai presque avoir 18 ans.
Oui.
L'année prochaine, mes parents veulent m'acheter une voiture, mais depuis très longtemps, je voudrais une moto.
Oui.
Ils ont très peur et je voudrais savoir quels sont les arguments que je peux leur donner pour justement avoir une moto.
À si loin, si proche, on est toujours au Festival de la Charité-sur-Loire, un festival curieux et littéraire qui a décidé cette année de mettre le voyage et la bourlingue à l'honneur. À nos côtés, Anne-France Daudeville, invitée du festival et bourlingueuse qui, dès les années 70, on en a parlé, a décidé de se lancer dans le vaste monde sur sa moto. Alors Anne-France, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment, ce qu'on vient d'entendre. C'est une archive INA datant de 1972, de l'émission Interfemmes, à laquelle vous étiez conviée pour parler de moto.
C'était moi ?
Et de femmes. Alors, l'auditrice, ça n'est pas vous.
Non.
Mais par contre, vous deviez répondre justement aux questions des auditeurs. Et est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez répondu à cette jeune femme qui se posait des questions, qui était à court d'arguments ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Mais pas du tout.
Alors, vous
le conseillez... verrez quand vous aurez mon âge. Vous aurez des trous dans la mémoire, mon petit.
Puis moi, j'ai le secours des archives quand même, donc c'est pas très juste. Alors, vous lui aviez conseillé de prendre d'abord un petit cyclomoteur, parce que je cite, je m'appuie sur mes notes, « ça va pas vite, c'est pas cher, ça consomme rien, et c'est la meilleure façon de se débrouiller dans la circulation, parce que dès qu'on est à moto, tout le monde essaie de vous rentrer dedans, systématiquement et délibérément. »
Ben voilà, c'est ce que je vous racontais.
On parle du danger.
Par contre, j'y restais.
Ouais, justement, comme une cible, en fait. Et ce n'était pas seulement le fait d'être une femme, on en a parlé, c'était le fait d'être tout simplement à moto.
Oui, et le fait d'être une femme à moto, c'était multiplié par 12. Et vous savez, le 19e siècle, il est mort en 68. Hein, et 72, c'est bien proche encore. Donc, vous imaginez, c'était une révolution qu'une fille soit califourchant sur une moto, qu'elle tienne le guidon.
Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez dit ne pas vous sentir pionnière ? En même temps, vous aviez bien conscience de faire quelque chose qui allait contre, à l'époque, l'ordre établi.
Je m'en fichais.
Ah, vraiment ?
Ah, mais vraiment. Non, non, j'ai jamais été militante de rien. Non, non. À partir du moment où j'ai mon cercle d'amis autour de moi, où j'ai mes chats, où j'ai la vie que j'ai choisie et que j'ai le droit de choisir, et ça, c'est tout nouveau aussi dans notre histoire. C'est 68 hein, qui a mis tout ça en place. Je ne demande rien d'autre. Qui je suis pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire, franchement.
Alors revenons justement aux grosses frayeurs qu'on peut se faire à moto, parce qu'il y a les accidents, ça fait quand même vraiment partie aussi.
Bien sûr.
C'est une dimension très spécifique du voyage à moto. Mmh. Mais il y a aussi, on le ressent dans vos écrits notamment, ce frisson de la solitude.
Que j'adore.
Ouais, face à ses peurs, ses contradictions, il y a des passages comme ça dans « Et j'ai suivi le vent » où vous êtes sur la highway et où vous racontez à quel point la piste, la route, peut offrir des moments d'harmonie en quelque sorte avec les éléments.
Oui.
Et ça, on sent que ça a été une dimension importante, ce vers quoi ou ce après quoi vous avez couru ou plutôt roulé.
Oui, et c'est quelque chose que j'ignorais totalement, mais justement parce que je ne pilote pas, parce que je laisse la moto rouler. Si je pilotais, il y aurait une partie de mon attention qui serait énormément utilisée par la moto. Quand je suis sur une moto, que je suis sur une route monotone, comme c'est le cas en Afghanistan, comme c'est le cas en Australie, comme c'est le cas quelquefois simplement sur les côtes, et que je suis seule et que la moto roule, j'ai une partie de mon cerveau qui est utilisée par la conduite, mais il y a toute une partie du cerveau qui tourne en inconscience, en arrière-plan. Et d'abord, il y a cette espèce de bien-être qui naît de la monotonie. Et c'est pendant que je roule et que cet inconscient travaille que je comprends ce que je fais et que j'établis des liens entre des éléments qui sont enfermés dans ma mémoire que consciemment, je n'oserais peut-être pas rapprocher, que mon inconscient va chercher et je fais mes additions. Et à ce moment-là, c'est vrai que je réponds à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions que je me pose, que je trouve des solutions à des trucs qui restaient accrochés dans un coin de mon cerveau et dont je ne savais pas quoi faire. Et c'est des moments où finalement, tout se met en harmonie. Moi, je suis en harmonie avec le monde autour de moi, avec la route, avec le temps qui fait, avec le temps qui passe. Et d'ailleurs, c'est un temps arrêté. Et c'est, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est.
Non, je ne sais pas, je n'ai jamais conduit une moto seule.
Mais je pense que les marins doivent vivre ça.
On en revient à la bourlingue.
Oui, c'est-à-dire que la monotonie est indispensable. Et je pense par exemple qu'il y a beaucoup de musique monotone, en particulier en Orient. Et je pense qu'effectivement, elles mettent le cerveau dans un état particulier de... Je crois qu'on dit lâcher prise quand on est intellectuel, c'est ça ?
Pas sûr.
Non, pas sûr. Non, je... Enfin, moi, vous savez, c'est un peu le cambouis. Hein.
Oui, vous parlez de vous d'ailleurs comme la bourgeoise à cambouis.
Absolument, je suis une bourgeoise et j'assume. Non, mais...
Alors, pour revenir à ces sensations assez magiques de plénitude et de relation au paysage, mais aussi aux autres, on va en parler. Il y a un endroit, et vous en avez déjà parlé, sur Terre, une île continent située en bas à droite, sur la carte du monde qui vous a offert, je crois, en tout cas vous le dites, le plus beau des voyages. Extrait de votre livre « L'Australie, c'est en bas à droite », paru en janvier 2021 aux éditions Payot. Un livre qui retrace le tour de l'Australie que vous aviez fait en 1975 sur 22 000 km et sur une BMW 750 cm3.
Oui, un vieux flat.
La route, la très longue route. Je retrouve l'Australie que j'aime, vide d'humains, pleine de vie et de mort. Hier, on m'a raconté pourquoi le kangourou s'appelle ainsi. Les Blancs, à leur arrivée, demandaient aux aborigènes quel était cet étrange animal, par geste bien sûr. On leur répondait systématiquement « Kangourou !» Ce qui signifie « je ne comprends pas ». Au fond, c'est pas si bête. Imaginez James Cook qui débarque en Australie. Il voit passer une sorte de castor affublé d'un bec de canard, l'ornithorynque. Arrive une grenouille géante et poilue avec une tête de presque lapin qui saute dans tous les sens, le kangourou. Il entend un grizzly grogner dans les arbres. C'est un petit machin rondouillard aux oreilles de Mickey qui discute avec un copain, le koala. James Cook jure d'arrêter le whisky. La moto roule seule dans ce monde faussement immobile qui m'apaise. Sans cesse, il m'offre des parfums. Terre chaude, sucre en fusion du mimosa, puanteur d'une charogne. Sans cesse, l'air caresse mon visage. Je roule visière relevée, casque enveloppant de rigueur. Sans cesse, de micro-mouvements tiennent la BM en équilibre. Mon corps entier est occupé. Alors une fois de plus, mon esprit se promène entre ciel et terre. Une fois de plus, le temps, parce que je n'attends plus rien, parce que je suis heureuse, perd de sa durée. Une fois de plus, je suis ici et maintenant.
Anne-France Deauville, aujourd'hui, à 77 ans, vous avez lâché la moto ?
Oui. Oui, je me suis fait exploser en voiture le 12 août 2012.
Donc c'est la dernière fois ?
Non, j'étais en voiture, heureusement, parce que j'étais sur une route pas très loin de chez moi. Et trois voitures arrêtées à gauche à un stop. Et au moment où j'arrive, il y en a une qui démarre, qui accélère de plus en plus et qui se jette dans la mienne. Donc, ça fait un choc. On m'a sorti de ma voiture après l'avoir coupée en deux. J'étais absolument comme le chef gaulois sur son bouclier, sur une planche. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu des os cassés. J'ai eu plein de fractures. Donc on m'a emmenée à l'hôpital, on a réparé ce qu'on pouvait. Et quand 2 ans plus tard, je pensais que j'étais sortie d'affaire, une polyarthrite rhumatoïde et déformante s'est installée. Et je suis en train de me faire ronger parce qu'on n'arrive pas à la soigner. Donc je pense que je dois payer pour mes péchés, un truc comme ça, vous savez. Bon, plus de moto. Donc du coup, je l'ai vendue au gars qui me vendait mes tracteurs.
Mais alors cette sensation justement toute particulière qu'on vient d'entendre, et vous en avez parlé aussi, celle d'être ici et maintenant, oui. Vous la retrouvez où aujourd'hui ?
Avec mes chats.
Et dans votre jardin, je crois.
Je ne peux plus faire de jardin, j'ai trop mal. Mais comment est-ce que je peux dire ? C'est quand on est vieux, quand on a le corps qui n'est plus d'accord avec vous, etc. C'est une autre carte de la vie, c'est une autre façon de considérer les choses. Je suis très étonnée d'être encore heureuse. Je suis très très étonnée d'arriver encore à me régaler de ma vie. Donc du coup, je me régale doublement. Parce que c'est vrai que j'ai mal partout. Bon, c'est comme ça, point barre.
Et vous vous régalez aussi peut-être de vos souvenirs, parce que vous l'avez dit, ce livre, L'Australie en bas à droite, vous l'avez écrit récemment, alors que ça évoque et raconte un voyage bien plus ancien, 75, 78 aussi, que vous êtes retourné
en même temps,
en Australie.
J'aurais écrit ce livre à ce moment-là, ça aurait été le voyage pour lui-même. Or, le fait de vieillir permet de savoir quel est le sens de tout ça. Et qu'est-ce que j'en fais du voyage, vous voyez ? Et ça, ça me passionne. Et puis, j'ai surtout ce privilège absolu de continuer à écrire et à être publiée, parce que, en fait, c'est ça, ma vie. C'est d'écrire. Quand j'ai cessé de voyager, par exemple, quand en 81, Mitterrand a mis le carnet de change, qu'on ne pouvait plus sortir d'argent de France, que j'avais fait mon dernier grand voyage, qui était un tour d'Amérique du Sud, c'était fini, on ne pouvait plus s'en aller. Mais j'ai écrit des romans et j'étais parfaitement heureuse. Donc, j'ai toujours quelque chose qui continue et qui, en réalité, la finalité de ma vie, c'est d'écrire.
Et alors, d'écrire aussi avec beaucoup d'humour, on vient encore de l'entendre, lorsque vous évoquez et imaginez l'arrivée de Cook, justement, en Australie, à découvrir la flore et surtout la faune, en l'occurrence. Il y a comme ça, c'est vrai, dans vos livres, un élan. On se dit que vous l'avez toujours eu dans votre vie, un élan pour partir, mais aussi cet élan pour écrire.
Ah bah, je suis un bélier, hein.
Vous foncez.
Et je m'appelle Anne, en plus je suis têtue. Non, j'ai cette chance.
Et puis vous écrivez aussi, c'est ce que je me suis dit, un peu avec les oreilles. Il y a un rythme en permanence.
Alors voilà, quand on écrit, et ça, la publicité a été une formidable école, parce que quand vous avez simplement 8 mots pour vendre une voiture qui coûte une fortune, il faut que vous tapiez juste. Et j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était d'écrire. C'est d'abord un rythme. Et ce rythme, le lecteur en est imprégné, mais il n'en est pas conscient. Par exemple, je ne peux pas lire Colette, qui est une femme que je trouve passionnante, parce que j'étouffe dans le rythme de ses phrases. Ensuite, une fois que le rythme est établi, et chaque récit a son rythme particulier, vous mettez des sensations avec les lettres. Si vous mettez des que, des peu, des etc., vous allez mettre une sensation de dureté. Si vous mettez « me », « le », « ce », au contraire, c'est tendre, c'est moelleux. Donc là, vous mettez des sensations et après, le cerveau passe à l'information. Donc l'écriture, c'est d'abord de la musique. Et quelle que soit la langue, je lis l'anglais comme le français, c'est vrai qu'il y a des écrivains musicaux et des écrivains ennuyeux.
Et alors dans cette musique, justement, littéraire, vous avez écrit vos propres voyages, il y a des récits de voyages, et puis vous l'avez dit, vous avez aussi écrit des romans ensuite, façonnés forcément par les histoires que vous avez croisées sur la route. Et en 90, vous vous penchez sur le destin d'une grande voyageuse de l'ère victorienne, Mary Kingsley. À la fin du 19e siècle, l'anglaise sera la première occidentale à gravir le mont Cameroun et son livre, L'Odyssée africaine, sera un best-seller. Extrait de cette Odyssée paru en 1897.
Je succombais au charme de l'Afrique dès mon premier voyage, quand je quittais la Sierra Leone. Un bref séjour me suffit pour comprendre que j'avais du pain sur la planche. Je prévins alors que je reviendrais, mais personne ne me crut. Aussi, lorsque je débarquais de nouveau, on me prit vraiment pour une demi-folle. Plus encore que la première fois, c'est tout dire. La côte occidentale de l'Afrique est caractérisée par une multitude de zones de mangroves. Elles commencent dès le nord de la Sierra Leone. On les trouve encore bien plus modestes jusqu'à Lagos. Toute la côte n'est qu'un vaste système de marais, où chaque rivière déverse des tonnes de boue dans la mer, communiquant avec les autres cours d'eau par un système de criques intérieures. Comme partout en Afrique, les nuits sont plus bruyantes que les jours dans les marécages littoraux. Dès que tombe l'obscurité, la nuit s'emplit de rumeurs. Grognements indéfinissables, éclaboussements des poissons qui jaillissent hors de l'eau, frémissements des crabes, craquements et grincements dans les branches d'arbres. Et, surnaturel entre tous, la toux lasse et plaintive des crocodiles.
Anne-France d'Hauteville, qu'est-ce qui vous a mis dans les pas de Mary Kingsley, cette voyageuse solitaire, sans mari, qu'on désignait en son temps et même après comme l'aventurière en robe noire?
Alors, j'avais un copain qui était éditeur et qui avait trouvé une Anglaise, dont j'ai oublié le nom, qui s'était promenée en Afrique, toute seule, etc. Donc je suis allée à Londres faire de la documentation sur cette Anglaise, et je l'ai trouvée un peu ennuyeuse. Et absolument par hasard, je tombe sur le personnage de Mary Kingsley, que je trouve complètement délirante. Vous vous rendez compte, elle est partie seule, elle a remonté l'Ogooué, elle trafiquait le rhum pour payer son voyage, et elle déchirait ses jupons pour faire des bandages, et elle vendait ses jupons d'ailleurs. Enfin, bon, c'est un personnage hors du commun, qui en plus a l'avantage d'être morte à 35 ans, donc on ne fait pas 650 pages pour raconter sa vie.
Et en même temps, elle a une vie très remplie. Hein.
Ah oui, mais elle est incroyable, cette fille. Et quand je suis rentrée de Londres, je lui ai dit, écoute, on laisse tomber l'autre, mais là, on a un vrai sujet. Et j'ai donc passé un an à essayer de reconstituer la vie et le mouvement de Mary Kingsley dans une Afrique que je ne connais pas. Mais ça, c'était un travail technique, je dirais. Quand j'écris la vie de Mary Kingsley, je suis à son service. C'est un peu un travail qui est parallèle à celui du journalisme, où vous êtes au service du sujet. Tandis que quand vous inventez un roman, vous inventez les personnages, vous inventez les situations, vous voyez les paysages, vous avez toute liberté. En réalité, quand j'ai commencé à écrire des romans, je me posais une question sur quelque chose que je ne comprenais pas de ma vie. Donc, je faisais bouger les personnages, etc. Et puis, ben, je trouvais la réponse à ma question. Et puis, une fois que c'était fait, je me posais une autre question, etc., etc. Donc, au fond, avec mes romans, j'ai fait l'équivalent d'une psychanalyse. Mais au lieu de donner mon argent à un bonhomme qui me fait la gueule, qui m'écoute d'une oreille distraite et d'être très malheureuse, j'étais très heureuse et j'ai gagné ma vie. Et quand j'ai arrêté d'écrire des romans, je me suis rendu compte que moi, je m'étais mise en bon ordre. Et bizarrement, j'ai commencé à travailler sur les plantes, alors que je ne suis pas botaniste ni rien. Et à travers les plantes, j'ai rangé le monde en bon ordre.
Vous êtes rassemblée.
J'ai trouvé, en tous les cas, je crois que j'ai perçu une organisation et de ce que c'est qu'un humain et de ce que c'est qu'un écosystème. Et j'ai eu cette chance de pouvoir le faire et de pouvoir en vivre.
Et vous a fallu quand même faire un petit peu le tour à la fois de vous-même et du monde.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que ce monde que je suis allée voir, auquel je n'ai pas compris grand-chose, mais que j'ai perçu de tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur.
Mais c'est ça, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a vraiment la dimension humaine aussi. Ce n'est pas seulement la routarde à moto.
Ah non, non, non. Non, non.
Vous arrêtez, vous rencontrez sans cesse des gens sur la route.
Et puis venez me voir, parce qu'une fille toute seule en Afghanistan, par exemple, quand j'ai passé la douane après la passe de Khyber et qu'il y avait tous les camionneurs qui étaient arrêtés à la douane, je passais avec ma moto, j'allais faire tamponner mes papiers, ils me tapaient dans l'épaule en disant « Very brave woman », et ils étaient morts de rire. Il y a un gars qui est venu me chercher, il m'a amené à une voiture, il y avait une femme sous le tchadri, ça n'a jamais été la burqa, c'était le tchadri, qui était dans cette voiture avec un bébé dans les bras. Il a pris le bébé, il l'a posé dans mes bras. Il me l'a laissé une demi-minute et il a repris le bébé, il l'a rendu à sa femme. Enfin, attendez, c'est magique, des choses pareilles. C'est magique.
Et c'est après ces instants-là, j'imagine, qu'on court aussi d'une certaine manière ou qu'on roule.
Non, c'est des instants qui m'habitent toujours et qui font que... Comment vous dire ? Je suis à la fois très, très, très solitaire... Et ces voyages m'ont totalement inscrite dans quelque chose qu'on appelle l'humanité, avec des majuscules partout, et qui est une conscience. Ça n'est pas un savoir, c'est une conscience. C'est-à-dire que ça a passé la barrière des jugements, des attentes, de tout. J'ai de la chance.
C'est presque une philosophie, en quelque sorte.
Ah, mais bien sûr. Évidemment. Évidemment.
Et alors, pour reprendre un peu le fil de votre trajectoire, les grands road trips, vous en avez fait donc en Australie, ensuite il y a eu l'Amérique latine, après quoi
ça s'est arrêté.
Vous abandonnez la moto.
Non, non, pas du tout. J'ai fait beaucoup...
Ou les grands voyages à moto peut-être.
Les grands voyages étaient impossibles. Par contre, j'ai fait de plus en plus de journalisme en tant que pigiste et j'allais faire mes reportages à moto. Je ne disais pas que j'étais journaliste. Si on me recevait bien, mais on recevrait bien n'importe quel touriste qui passerait. Et j'ai eu cette chance de me balader à travers toute la France que je connaissais bien, de me balader un peu partout en Europe. Et c'était du bonheur de nouveau. Mais non, non, la moto, j'en ai fait jusqu'au 11 août 2012, avant de me faire flinguer le 12.
Et alors, il faut quand même noter effectivement ce dernier grand voyage à moto que vous avez fait à 60 ans, en 2004, en France. Un peu comme une tournée de potes et de popotes. Qu'est-ce que je me suis dit?
Ben, c'est-à-dire que je n'ai jamais fêté mes anniversaires, je ne voyais pas pourquoi. Mais arrivé à 60 ans, vu la façon dont je conduis et la cuisine que je me fais, je me considérais comme survivante, c'était un miracle. Donc là, il fallait fêter ça. Je me suis racheté une moto parce que j'avais arrêté pendant une douzaine d'années, les assurances étaient trop chères. J'ai trouvé une vieille BM, un peu comme celle que j'avais en Australie. J'ai appelé les copains en province en disant « je veux une cuite et un gâteau ». Et j'ai fait un tour des copains en me disant « pour une fois, je fais un voyage et je n'ai pas de livre au bout, c'est juste pour le bonheur ». Et puis c'était tellement génial qu'en rentrant, j'ai écrit le livre. Et
qui est sorti 15 ans plus tard.
Oui, c'est ça, il était 2019. Dans un coin. Et quand Payot a ressorti le Tour du Monde, eh bien, ils m'ont demandé si j'avais un truc. Bah, je leur ai sorti la vieille. Et la vieille, elle fait plaisir à plein de gens et à moi aussi. C'est marrant comme tout. Enfin, vous imaginez, c'est
la
comme si on avait
ouvert... La vieille qui conduisait des motos, c'est ça le oui, titre ça. De votre livre.
C'est comme si on avait rouvert mon cercueil, quoi. Brusquement, ça devient actuel. Alors que je suis une vieille dame, c'est drôle. J'ai une vie géniale, je trouve.
Parce que pour finir quand même, il faut le dire, il y a eu ce dernier virage de l'existence, c'est qu'il y a eu ces rééditions et ces éditions nouvelles de ce livre sur l'Australie et aussi sur votre voyage en France, à la faveur aussi d'une redécouverte par le monde de la mode.
Mais avouez que c'est
vous
fou.
Êtes devenue égérie Anne-France Dauduit. C'est ça, racontez-nous un peu.
Eh bien, un soir de l'automne 2016, je trouve mes mails, je les ouvre une fois par jour, enfin vers 1h du matin, point barre. Et je vois un mail de la maison Chloé disant « Est-ce qu'on peut utiliser deux phrases de votre tour du monde pour nos invitations à la collection automne-hiver ?» Pour moi, c'est le petit Martien Vert qui sort de la soupière dans Mad, vous savez, le journal de caricature américain. Enfin, donc le lendemain, je téléphone, je dis « C'est quoi cette histoire ?» Et je tombe sur un type adorable qui me dit « Bah voilà, on voudrait... » Je dis oui, mais je voudrais vous connaître. Ah non, 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 on n'a pas le temps parce qu'on prépare la présentation, c'est le 3 mars. Ben oui, vous faites ça, si vous dites le titre de mon livre, ça me fera plaisir, mais allez-y. Mais je veux vous connaître, ben on viendra déjeuner après. Ils font la présentation le 3 mars, ne m'invitent pas, ce que je trouve très professionnel, parce qu'on ne se connaissait pas. J'aurais pu être tombée dans le whisky, j'aurais pu chanter l'international n'importe quand. Enfin, je veux dire, ils étaient prudents, très bien. Mais ils sont venus déjeuner avec Claire Wade-Keller, qui était la styliste, à la maison. Et moi, qui ai toujours fui la mode, la beauté dans les journaux, parce que c'est vraiment pas ma planète, je suis tombée sur des gens merveilleux. Je leur ai sorti à la fin du repas les photos du Tour du Monde. Claire est tombée de sa chaise, les autres aussi. Et du coup, on a décidé de bosser ensemble pour présenter cette collection. Et alors, c'était marrant, parce qu'elle a eu un écho... mais planétaire, ça s'appelait les motards romantiques. Jusqu'en Corée du Sud, j'ai vu sur Internet un clin 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 écrit en asticot au milieu Anne-France Dauduit en clair, et puis ça repartait. Mais c'est fou. Et c'est ça qui a relancé ces voyages, et ils sont redevenus actuels, parce que je crois que les humains actuellement ont besoin de nouveau de renouer avec l'humanité.
Et avec la liberté peut-être, non?
Peut-être surtout avec tout simplement l'échange. Que ça ne soit pas uniquement virtuel, que ça ne soit pas uniquement des octets, que ça soit des histoires d'humains qui se regardent dans les yeux, qui peut-être se serrent la main, mais qui partagent ici et maintenant et qui sont heureux de se reconnaître. C'était magique, c'était drôle.
Bah, c'est un peu ce que j'ai l'impression d'avoir vécu avec vous là pendant cette émission, et j'espère que les auditeurs aussi. Merci Anne-France Dauduit.
Merci à vous.
Merci aussi à toute l'équipe du festival aux quatre coins des mots de la Charité-sur-Loire pour leur invitation, leur accueil et leur curiosité bien contagieuse. Merci à la Sonothèque de RFI et à l'INA pour leurs archives. Et enfin, merci à Lucie Bouteloup pour ses lectures. Auditeurs, lecteurs, voyageurs, sur le site de RFI, rubrique podcast, si loin si proche, vous retrouverez les références des récits de voyage d'Anne-France Dauduit, dont pas mal ont été réédités et sont disponibles aux éditions Payot. Laure Allary, Céline Develay-Mazurel, on vous dit à la semaine prochaine, et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de la Radio Mondiale.